France Culture.
C'est un mytho, un escroc, hein, quand même, c'est un phénomène.
Le Pic-Assiette, une série d'Alain Lefkovitch et Sonia Kronlund.
Le loi faisait l'événement, il était devenu le must.
C'est une histoire qui prête à rire, hein. Sauf qu'il peut mettre les gens par terre, quoi.
Épisode 7. Allô, Alain ?
Allô ?
Bonjour, monsieur Jolot, l'appareil.
Ah, bonjour, comment allez-vous ?
Ça va, merci.
Vous êtes où, là ?
Ben là, je suis à Charleroi.
Ouais.
Je suis embastillé à Charleroi. Je vous appelle de prison, vous voyez ? D'un téléphone légal, hein.
D'accord.
Il y a un téléphone par cellule, là. Vous avez un code, etc. Donc, cette conversation est d'ailleurs enregistrée.
Ah oui,
d'accord. Je veux dire, toi, dit-on,
ouais.
En passant.
D'accord.
Je vous préviens.
Ouais. Quand on a commencé à lui écrire sur WhatsApp, au début, Alain Jolois n'a pas répondu à nos messages. Ça faisait presque 2 ans qu'avec Alain Lefkovitch, au pied sur terre, on enquêtait sur ses différentes escroqueries. Alors évidemment, le rencontrer, lui parler, avoir sa version des faits, c'était important. Avec ce qu'on savait, on arriverait au moins à repérer quand il ment et quand il dit vrai. Et qui sait si on ne pourrait pas percer un peu le mystère de cet homme considéré par toutes les juridictions, je le rappelle, comme responsable de ses actes. Y avait-il quelqu'un derrière ce mur de mensonges et d'identité, ou juste du vide et des mots ? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette boulimie de paroles, de nourriture et de médicaments ?
Moi, je ne crois pas aux chimères. Je ne crois pas aux histoires. Les choses ne sont peut-être pas, et ne sont sans doute pas d'ailleurs, ce qu'elles semblent être a priori.
Il a commencé par ne pas répondre pendant plusieurs mois. Et puis, un jour, Alain Lefkovitch lui a demandé « Alain Jolois, pourquoi détestez-vous à ce point ce nom et cette personne ?» Et là, il a répondu tout de suite par écrit en disant que cette question, c'était n'importe quoi. Il s'en est suivi un échange décousu jusqu'à ce que Jolois invite Alain Lefkovitch à le rencontrer à Édimbourg. Le rendez-vous a bien évidemment été reporté, déplacé, puis annulé, avant que Jolois ne retombe dans un silence complet. Ça, c'était en août 2024. En novembre, on a appris qu'il avait été arrêté en Belgique, à Charleroi. Il est suspecté d'avoir extorqué plusieurs dizaines de milliers d'euros à une femme qui logeait dans le même hôtel que lui, l'hôtel Ibis, en face de la gare. Il a été incarcéré à la prison de Charleroi en détention préventive. Nous avons alors contacté son avocat. Jolois a commencé par demander 5000 euros pour nous accorder une interview au parloir. Il nous a fait parvenir son RIB dans la foulée. Il avait besoin d'argent pour cantiner. Nous avons refusé. On ne donne jamais d'argent pour une interview. Alors, peut-être parce qu'il n'avait personne à qui parler ou qu'il était sûr qu'une oreille attentive allait écouter ses nouvelles aventures, par narcissisme ou dans l'idée de nous manipuler, le 10 janvier, Alain Jolois a appelé Alain Lefkovitch sur son portable depuis le téléphone de sa cellule.
Vous êtes mon premier coup de fil, vous êtes mon second coup de fil puisque j'ai eu ce matin les affaires consulaires, et puis vous. En fait, j'ai été arrêté et je refuse de comparaître, refuse de faire des déclarations à la justice ou à la police, etc. Si je déclare quelque chose à un journaliste, quoi, à un média, je le ferai qu'une seule fois.
Oui.
Je suis plutôt enclin à penser que ce sera avec vous parce que, déjà, par esprit de service public, eh bien, pourquoi pas une entité de Radio France, d'abord, parce que c'est gage de qualité. Vous avez des opinions, quand j'étais allé voir un peu qui vous étiez, de sensibilité de gauche, tout ça se rapprochait un peu de moi. Vous ne semblez pas être l'archétype du journaliste français à la con dont on voit tous les jours et qui raconte n'importe quoi. Donc c'est peut-être plus la même à me donner confiance, si vous voulez. Je n'ai jamais, en tout cas très rarement, pris la parole. Ces dernières années, je ne l'ai pas prise. Oui. Mais là, peut-être une petite clarification me semblerait assez amusante. D'accord. Voilà. Il y a quand même un psychiatre qui est venu me voir pour me dire, à qui je n'ai pas voulu parler, qui m'a dit, si ça se trouve, vous n'êtes pas Monsieur Jolois. Je trouvais ça drôle. Des choses qui sont intéressantes, mais qui ne vont pas dans le sens où vous l'imaginez. C'est-à-dire que vous imaginez que tout ça, c'est romanesque, que je suis un escroc mythomane, machin, etc. Mais il y a peut-être autre chose derrière tout ça.
Rapidement, Jolois a déroulé un discours nébuleux et allusif. Il semblait faire référence à une réalité parallèle, supérieure, à des secrets d'État, des missions mystérieuses. Mais d'argent, il n'a plus été question.
Alors j'avais dit exprès pour vous éloigner un peu, là, donc à savoir de l'argent, etc. Mais en fait, finalement, j'en ai pas autant besoin que ça.
D'accord.
Moi, si vous ne me faites pas d'entourloupe, je ne vous ferai pas d'entourloupe. Oui, je veux bien, mais attention, je vous le dis, attention. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des réactions qui ne seront peut-être pas, toujours agréables, quoi. Je sais pas. Mm-hmm. Si vous êtes d'accord pour faire ça, oui effectivement, alors là, je serai éventuellement d'accord pour mon dernier coup d'archer. J'étais arrêté le 27 novembre. Et attendez, il y a mon collègue qui vient d'arriver. Merci.
C'est qui la personne qui est à côté de vous?
C'est mon collègue de cellule algérien, là, qui s'appelle Mohamed avec deux M. Et il est sans papier.
D'accord.
Et il est sympathique, voilà. Il a 38 ans. Et il est ici pour bagarre. Son français est très très mauvais. Lui, il parle soit le kabyle, soit une sorte de patois algérien que moi je comprends pas, vous voyez. Et donc, l'arabe littéraire, lui, il parle pas. Donc, on a du mal à communiquer.
D'accord.
On m'a saisi tout ce que j'avais, c'est-à-dire pièces d'identité, je sais même pas où elles sont, ma carte de crédit, même mes t-shirts, mes slips, mes chaussettes. Je n'ai rien. Mmh. Les indigents ont 52 euros par mois, donc je bénéficie de ce crédit de 52 euros qui me permet d'acheter 3 œufs et, quand il y en a, des oignons, un poireau. Et en fait, moi, vous savez, je ne sors pas au préau, c'est-à-dire la promenade, parce que c'est la gadoue et c'est là où il y a tous les trafics, tout ça, etc. Bon, moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas, etc. Donc c'est vite entendu pour avoir moins de problèmes, vous voyez. Et la bouffe est vraiment dégueulasse, quoi. Mais vraiment, hein. Et il y a un seul repas par jour, en fait. Ce midi, ils ont donné des choux de Bruxelles, des pommes de terre à la flotte, à l'eau, avec une espèce d'agglomérat de viande incertaine, avec du paprika par-dessus, en forme de steak haché. Donc c'est vraiment affreusement dégueulasse. Et ce soir, ils ont donné une boîte de maquereaux. Et tous les jours, vous avez un pain de mie, soit gris, soit blanc, pour deux. Pour deux, hein.
Ouais.
De toute façon, si vous ne cantinez pas, vous passez le seuil, peut-être pas du Soudan, mais voyez, parce qu'on va pas se moquer du Soudan. Non. Mais par exemple, là, j'ai perdu des kilos, là. J'ai perdu du poids. Ce qui est pas si mal. Vous voyez?
Ouais.
Ici, il y a des cellules de 3 qui sont overbookées. C'est une prison des années 70. Mmh. C'est quand même un petit peu sale. Je suis au ras des pâquerettes et face aux rats dans la cour, parce qu'il y a plein de rats, c'est pire qu'à Paris, vous voyez. Les conditions d'étention sont assez mauvaises.
Votre quotidien, là?
Je me lève le matin vers 5 heures environ. Je je regarde les informations belges, puis après les informations françaises internationales sur LCI, et puis mon collègue nettoie par terre, je fais la cuisine, je regarde Malcolm, puis Castle, puis un film ou deux, je lis, et la bouffe qui arrive vers 18h, et puis après c'est le programme du soir, quoi. Voilà, c'est l'hospice, vous voyez, c'est l'EHPAD avant l'âge et avant l'heure, voilà.
Qu'est-ce qu'on vous reproche, en fait ? Parce que j'ai pas très bien compris.
Alors, l'histoire, c'est que je suis arrivé à Charleroi, j'étais avec quelqu'un.
Ouais.
Je suis arrivé à l'hôtel et la carte de crédit présentée ne fonctionnait pas. Et cette dame est arrivée en disant « Je couvre tous les frais, ces messieurs. » Voilà. Ce qui peut sembler, a priori, bizarre, mais c'est comme ça que ça s'est passé.
C'était qui l'autre personne ?
L'autre personne, c'est la personne qui m'accompagnait, qui, lui, est libre.
Donc, et cette femme en Belgique, vous l'avez rencontrée comment ?
Sans doute par hasard. Mais vous savez, comme je suis pragmatique et j'ai un esprit scientifique, ouais. Je ne crois pas au hasard. Voilà, je suis poursuivi pour ça. Donc ils sont en train de faire des investigations. Et comment dirais-je, je ne me suis pas disculpé
ouais.
Non plus. Je n'ai pas donné d'explication. Je n'ai fait aucune déclaration.
Mais pourquoi ?
Parce que... Je considère que je ne suis pas en tort et que ça n'est pas à moi de prouver que je suis innocent, mais c'est à eux autres de prouver que je suis coupable. Et je pense que ça va être difficile pour eux.
Ce qui lui est reproché précisément n'est pas très difficile à trouver. Il suffit de lire l'article d'Alexandra Henry dans le magazine Society et d'obtenir quelques confirmations auprès du tribunal. Je ne vais pas vous donner tous les détails, car l'affaire ressemble à toutes les autres, juste un peu pire. En gros, il est accusé d'avoir, entre le 3 octobre et le 23 novembre 2024, emprunté, c'est-à-dire volé, 43 000 euros à une certaine Solène. Expulsée de chez elle en raison de loyers impayés, cette ancienne prof de 59 ans, à la fois précaire et plutôt déprimée, est allée vivre à l'hôtel Ibis en face de la gare de Charleroi. En même pas 2 mois, elle a prêté à son voisin de chambre les derniers deniers dont elle disposait, provenant d'un héritage et de sa retraite. À ce moment-là, Jolois est accompagné d'un garde du corps, c'est-à-dire un SDF qui s'est cru en toute bonne foi recruté par lui à ce poste, au service d'un général de l'armée britannique. Classique, cruel. Jolois lui a au passage siphonné tout l'argent qu'il avait économisé pour le mariage de son fils, 5000 euros. Sur Charleroi, il ne répondra pas plus à Alain Lefkovitch qu'à la justice. Comme à chaque fois qu'on essaie de confronter Alain Jolois à ses mensonges, au mal qu'il a pu faire autour de lui, qu'on lui pose des questions précises sur ses victimes, et ça n'est pas faute d'essayer, il esquive.
Alors là, je vais pas pouvoir répondre à cette question, ici.
Très vite, la conversation tourne à vide.
C'est même pas personnel ou pas personnel. C'est que je ne peux pas répondre à cette question.
Julia Roberts est périgueux.
Là, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer.
D'accord.
Alice.
Ah ben là, je ne vais pas pouvoir vous répondre, puisque elle a, comment dirais-je, pris attache avec les autorités belges.
Les 80 000 euros de dette.
Ben oui, mais parce que c'est difficile de vous répondre alors que je suis enregistré. Est-ce que vous vous rendez compte que quand même, que tout ce que je dis peut être retenu contre moi ?
Au fil de la conversation, il se contente de peaufiner un personnage trouble et double.
Qu'est-ce qui nous dit que M. Jolois n'avait pas besoin d'aller dire bonjour à quelqu'un à la prison de Charleroi ? Je donne un exemple, hein, où la présence de M. Jolois à la prison de Charleroi va forcément produire un certain nombre d'effets. Vous connaissez le principe des ailes des papillons qui bruissent à New York et qui fait un tsunami à Tokyo. Donc, c'est juste de l'organisation, en fait. Je suis ici volontairement.
Mais pourquoi ?
Ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez, je vais partir d'un postulat. Ne me mentez pas, je ne vous mentirai pas. Vous voyez ? Donc, moi, je ne vais pas vous mentir.
Oui.
Ne me mentez pas, voilà, c'est un bon deal. Bah, moi, je ne vais pas vous mentir. Je vais vous dire, naturellement, je ne suis pas venu à Charleroi par hasard. Voilà.
On ne va pas se mentir, nous non plus. Imaginez que Jolois allait nous dire quelque chose de vrai, d'intéressant ou exprimer du remords. C'était un peu naïf. Alors pourquoi continuer à lui parler ? Est-ce que ça n'était pas un peu complaisant ou au contraire cruel si on admet qu'il est un malade incurable ? Une des réponses, c'est que ça s'est passé comme ça, parce qu'on a eu la possibilité de le faire à ce moment-là et que ça nous a semblé la bonne décision. Pour les victimes, pour se faire une idée de l'homme par nous-mêmes, parce que c'était difficile de s'arrêter. Comme Alice, on voulait voir jusqu'où ça irait, s'il y avait une fin à l'histoire. Et on a vite compris où ça nous menait.
Est-ce qu'on peut reprendre un rendez-vous téléphonique ou...
Alors, oui, mais alors, c'est pas gratuit, vous voyez ce que je veux dire ? Pour accéder au téléphone, il y a deux comptes, c'est-à-dire votre compte sur lequel vous faites vos cantines, et le compte du téléphone. Ah, okay. Et... pour les fêtes de fin d'année, ils ont accordé à tous les détenus de Belgique 15 euros et 15 euros. Donc là, je suis en train de vous appeler sur ce crédit de 30 euros, en fait. Mais ça fond comme neige au soleil, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. On peut se donner des rendez-vous au téléphone régulier jusqu'à extinction de mon crédit, quoi. Voilà.
Ok, super, on fait comme ça. Merci,
au revoir.
Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Je suis très fatigué là, je sais pas pourquoi, mais voilà.
Vous avez un peu de temps là ?
Un petit peu, oui, bien sûr.
Au lieu de lui poser des questions directes, de le confronter en vain, on a donc essayé de prendre d'autres chemins, plus ou moins hasardeux.
Parlant de littérature, c'était quoi vos héros quand vous étiez jeune ?
Ben, par exemple, j'ai lu très tôt Kipling, il m'a beaucoup influencé, mais c'est surtout Dickens qui m'a effrayé, Jeanne Sue et surtout Victor Hugo, où être pauvre est une vraie frayeur. Ne pas pouvoir manger, ne pas pouvoir se soigner, ne pas avoir un toit, se faire bafouer, se faire humilier par une chaîne... alimentaire, par une chaîne d'autorité, voilà. Je veux dire, moi, quand on m'a raconté la première fois l'histoire du petit poussé, ça m'a fait flipper, quand même. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire où on se débarrasse des gamins, quoi ? C'est quoi ces parents ? C'est quoi cette façon de faire, voyez ? C'est quoi cette société de merde ? Parce que, voilà, c'est ce que je me suis dit tout de suite, moi.
D'où votre personnage ?
Comment ça ? Je comprends pas.
Bah, Sir Ian McGregor, il aime l'action, il vit dans un univers où il n'y a pas de problème d'argent, vous voyez ?
Ouais, et alors ? Je vois pas le rapport, là.
Bah, entre votre peur d'être pauvre et puis votre...
Non, alors attendez, c'est une peur d'enfant.
Oui.
Attendez, vous allez quand même vite en besogne, là. C'est pas non plus un traumatisme profond, c'est un traumatisme normal.
Sir Alan McGregor, c'est l'antidote à ces terreurs d'enfance de Dickens.
Ah non, mais non, attendez, excusez-moi, là c'est de la psychologie de merde, ça.
D'accord, alors c'est pour ça que je vous pose la question.
C'est pas. Il n'y a pas de dédoublement de la personnalité, il n'y a pas de recherche mythomaniaque. L'explication que vous donnez n'est pas la bonne. Voilà. C'est à la fois plus simple que ça et c'est certainement pas simple. Je croyais que vous posiez des questions intelligentes.
Qu'est-ce que vous aviez envie de faire, par exemple ? Vous rêviez de quoi quand vous étiez ado ou même avant ?
Je rêvais de quoi ? Je rêvais de... Le même rêve, toujours permanent, de manger un bon poulet rôti avec des frites et de la salade verte.
Ouais,
voilà, mais... c'est mon rêve absolu, ça.
Vous avez été élevé par vos grands-parents, et cette espèce d'abandon qui vous... Enfin, je ne sais pas, mais...
Ah non, bah alors si vous voulez faire allusion au fait que j'aurais été abandonné par mes parents chez mes grands-parents, c'est pas vraiment le cas. Et en tout cas, si j'ai été abandonné, j'en suis ravi. J'ai eu l'occasion d'avoir une discussion très poussé quand j'ai pu connaître à mes 20 ans ma propre mère. Et je suis ravi de ne pas avoir été élevé par mes parents. Voilà, donc mes parents avaient divorcé pour adultère. Bon, forcément, en 1967, ça ne se fait pas, c'est pas convenable.
C'est votre mère ou c'est votre père qui avait trompé?
Oui, non, c'est ma mère qui... voilà, et je le dis avec beaucoup d'assurance, puisque je détiens une copie du procès-verbal d'huissier qui constate à la FEDO, là, qui constate l'adultère, avec un commissaire de police qui vient à 6h du matin. Après, celle qui m'a élevé, c'est ma grand-mère, et puis voilà, quoi.
La conversation s'est prolongée. Et à force de parler avec un menteur et d'enquêter sur un menteur, dans un monde où tout n'est que mensonge, Alain Lefkovitch lui-même a fini par s'y perdre et à s'y mettre aussi.
Mais en fait, vous me faites parler parce que vous m'enregistrez là en réalité, non?
Non, pas du tout, j'essaie de comprendre, j'essaie de tisser un fil.
Vous m'enregistrez pas là? Vous enregistrez pas nos conversations?
Non.
Je suis étonné, voyez? Je suis étonné.
Pourquoi?
On pourrait s'imaginer que vous puissiez le faire, voilà.
D'accord. Eh ben, la vérité, c'est que oui, je le fais. Oui, évidemment, je le fais, évidemment.
Alors, pourquoi vous me dites le contraire, là?
Parce que j'essaye de... Parce que vous m'avez fait un compliment une fois, et je voulais savoir si ce compliment... de quelle nature était ce compliment?
C'était quoi?
Que je n'étais pas comme les autres journalistes.
Non, bah alors, si vous voulez demeurer et continuer à ne pas être comme les autres... Il faut dire les choses franchement. Mais voilà, je oui. Vous enregistre.
Voilà, vous le savez maintenant, mais je voulais aller au bout de ce compliment, vous voyez.
Oui.
Et votre père, lui, il était absent, il était...
Oui, mon père était pas vraiment un père. C'est quelqu'un qui, lorsque j'ai vraiment appris le temps, puisqu'il est mort en 2015, assassiné, mais on a dû vous le dire. Il est mort brûlé vif dans sa voiture. Et on a dit, voilà, il avait bu un coup de trop, il s'est arrêté sur le bas-côté, son cigare a mis le feu à sa voiture, et on n'a jamais pu déterminer quelles ont été les circonstances réelles de sa mort. J'ai fait ma petite enquête, même approfondie même, mais je ne vais pas parler de ça. Mais mon père, c'est une des personnes dans ma vie qui m'aura fait le plus rire. Il me faisait mourir de rire. Voilà. Moi, personnellement, je l'aimais bien, quoi. Je veux dire, je m'aime beaucoup même. Et quand un gendarme vous dit au téléphone, votre père, son corps est complètement carbonisé, mais on a pu relever son taux d'alcoolémie qui était de 2,70 grammes passé, et je lui ai dit, effectivement, là, vous n'allez pas pouvoir lui retirer son permis, quoi. Donc, ça l'a laissé sans mots. Mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, et si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est sans doute en grande partie grâce à mon grand-père. Voilà. Si je suis supposé parler autant de langues, c'est grâce à lui. Mon grand-père était quelqu'un de... C'était un grand cachottier. Il jouait plusieurs rôles, là. C'était un chasseur qui était en apparence un représentant de matériel agricole et qui, probablement, avait des activités souterraines, d'autres responsabilités.
Qu'est-ce qui vous manque le plus, là?
Mon thé, puis bien manger, voilà, ouais. Quoi, manger correctement, c'est-à-dire des bons produits, des choses comme ça, quoi. Et mon piment d'Espelette.
Je voulais savoir d'où vous est venu le nom de Alan McGregor ou Fraser of Love.
Je ne peux pas répondre encore une fois à cette question. Figurez-vous, vous n'êtes pas le seul à se poser la question. Mais en tout cas, il y a une raison. Vous savez qu'il y a une raison à tout, en général.
Oui, bien sûr.
Je peux vous dire que c'est très, très amusant d'être pris pour un mythomane. C'est une étiquette qu'on m'a donnée, qui est facilement gérable et qui est très intéressante. Je ne pense pas l'être, malheureusement. Je n'ai pas assez de fantaisie, en fait.
D'accord.
Okay. Je ne suis pas fantaisiste, vous savez, moi, je suis rigoriste, beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Je suis. Indubitablement et définitivement sérieux, etc. Ça n'est pas parce qu'on fait croire à quelqu'un quelque chose de fort ou d'important que pour autant vous êtes un mythomane, vous êtes donc un menteur. Ça n'est pas pareil.
D'accord.
C'est un menteur de façon mécanique. C'est-à-dire que c'est une réaction presque chimique. Vous faites un mensonge pour obtenir quelque chose dans le cadre d'un résultat ou dans le cadre de quelque chose. Je veux dire, je ne suis pas Robin des Bois et je ne suis pas non plus ni un escroc, ni un mythomane. Oui, je me considère comme quelqu'un qui bâtit une muraille de mensonges, en général pour mieux protéger la vérité, comme disait Churchill. Et oui, je joue avec les lignes, voilà, à des fins non personnelles.
Jolois ment-il pour protéger la vérité, comme il le prétend, ou pour escroquer, voler de l'argent, dormir dans de beaux draps, comme il le fait depuis 40 ans qu'il affabule? Mais est-ce que savourer un bon poulet frites, c'est vraiment le but et le seul? Et si c'était ça, pourquoi continuerait-il à parler à Alain Lefkovitch et à lui dérouler ses histoires? Ces entretiens, il le comprend vite, ne lui procureront ni argent, ni nourriture, et pas beaucoup de gloire non plus. Il ne cherche pas à en obtenir grand-chose, si ce n'est un auditoire, un public et la possibilité de faire durer ses mensonges. Il ment comme il respire. Je repense à l'expertise psychiatrique qui indique déjà en 2001, je cite, « Monsieur Jolois est pris dans son discours mythomaniaque sans capacité de l'arrêter, même devant le psychiatre dont il sait pourtant pertinemment que ce dernier va l'étiqueter cliniquement. » Fin de citation. Il sait qu'on sait qu'il ment, mais il ne peut pas s'en empêcher. Ce que la psychiatre appelle une personnalité psychopathique, qui ne nous apprendra rien de plus.
Déjà, je trouve que je vous en dis beaucoup, là. C'est à vous de chercher.
Non, mais je suis d'accord, mais je peux me dire aussi, vous me baladez aussi, quoi, parce que...
Ouais, je vous ai... Ah ben moi, attendez, alors je vais vous dire un truc, moi je n'ai rien à vous vendre. C'est vous qui êtes venu me voir.
C'est vrai.
Et puis vous savez quoi, votre émission, je vais certainement pas... Vous savez que je n'écoute jamais rien, je ne lis jamais rien de toutes ces conneries, là, ça m'intéresse même pas.
C'est quoi les échéances, là, pour vous?
Bah, là, j'attends encore 28 jours, et puis après, je vais savoir si je vais être jugé, pas jugé, voilà. Je ne souhaite avoir de nouvelles de personne, et communiquer avec personne, et je ne veux voir quasiment personne. Je ne me déplacerai pas devant la justice belge, et je ne fais aucune déclaration. En revanche, mon avocat va déposer des observations et demander des contre-interrogatoires, etc., comme la loi le permet ici.
Alors, avant que ça coupe, je voulais vous dire que j'ai reçu une réponse négative de la part de la prison, qui me refuse le parloir avec un micro. Donc, qu'est-ce qui me reste comme possibilité, là?
Il vous reste le parloir normal. Parloir famille.
Ok.
Alors là, si vous venez, à ce moment-là, je vous dirais de m'amener deux, trois petites choses, notamment du thé, des caleçons, je sais pas quoi, etc. Parce que toutes mes affaires ont été saisies. Donc là, je vis sur le dos de gens qui me trouvent sympathique. Voilà. Ok. Vous comprenez? Mais de toute façon, il va falloir vous dépêcher parce que ça va bouger à un moment donné ou à un autre. Peut-être que je vais être condamné, peut-être que je vais être libéré, peut-être que je ne vais pas être libéré.
Je vais voir ça avec ma productrice Sonia Kronlund dès lundi et je vous tiens au courant. Enfin,
vous pouvez m'écrire aussi à la prison de Charleroi, rue de Vandamme, je ne sais pas quoi, 6000 Charleroi, un truc comme ça, Belgique, et ping, ça arrivera. Voilà, okay. Si vous venez me voir, ben, ça sera pareil. Et okay. Si vous voulez que je vous appelle... Et pour combiner des trucs, eh ben, il faudra financer l'appel. Voilà.
Très bien, parfait.
Voilà, ben merci, alors peut-être à bientôt.
Vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
L'audience a eu lieu le 5 juin 2025. Jolois a demandé à exercer son droit au silence, mais finalement il a parlé quand même, devisant avec la présidente sur son ton habituel. Il a notamment jugé sa détention presque enviable, comparée au malheur du monde. Le procureur du roi a réclamé la peine maximale de 5 ans de prison pour lui et 3 ans pour son pauvre garde du corps. Le jugement a été prononcé le 19 juin. Vous le trouverez sur notre site à la page du Pic Assiette. Mais pour sûr, Jolois est parti pour passer un bon bout de temps en cellule. Nous avons prévu de lui faire parvenir du thé et des chaussettes.
Eyes will drift to the sky in time, while arms keep holding tight. There's a party in full force. Still the guests can't help but watch the door.
C'était le Pic Assiette, 7e et dernier épisode, une série d'Alain Lefkovitch et Sonia Kronlund en partenariat avec Society. Reportage Alain Lefkovitch, réalisation Sylvain Richard avec un coup de main d'Éric Lancien, conseil à la narration et à l'écriture Adila Benedjaizou, un coup de main pour les enquêtes d'Inès Bouffartig, Sébastien et Lucie Tétard, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy, notre stagiaire, c'est Luce Mourant et c'est Gilles Lavanant qui a composé la musique de cette série. Merci également aux équipes de France Culture et en particulier à Antoine Lachan et à son équipe, à Pauline Petit, à Kesley Sulo, qui est l'illustratrice de cette série, à Camille Renard, à Juliette Estrumza, à Alexandra Henry et à Pierre Boisson de Society. Et merci tout particulièrement pour l'ensemble de cette série à Alice, que vous avez entendue dans le premier épisode et qui nous a accompagnés tout le long de cette enquête.
There's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else.
When you look up,
tell me who you are. Fall comes by surprise. Looking into strange eyes, like school kids who are not friends. In the streets they are connected. Huddling in the dark, the only number you call. Magic moments are not lost. They'll outlive all your doubts. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else.
When you look up,
tell me who.